Bonsoir, comment allez-vous? Mercredi dernier, France Musique fêtait l'anniversaire de Frédéric Lodéon. Pour les nouveaux, Frédéric Lodéon est un génie du violoncelle devenu chef d'orchestre, doublé d'un homme de télévision et de radio. Pendant les années France Inter, il a été notre voisin de bureau au Petit Bateau. Frédéric est un homme étonnant dans bien des domaines, mais celui pour lequel je lui voue la plus grande reconnaissance, c'est le désordre. Que j'ai aimé le foutoir de ce bureau, encore supérieur à celui de Jean d'Ormesson. Allez sur Internet voir une photo du bureau de l'écrivain Jean d'Ormesson, vous verrez, on est déjà bon niveau. Chez l'Odéon, dit Fredo, c'était une œuvre d'art, un subtil, magnifique et miraculeux empilement de disques et documents divers et variés. J'ai entendu, cru et dit à mes enfants, pendant des années, que quand son environnement était désordre, son esprit était désordre aussi. Eh bien, je ne le crois plus. Il n'y a pas plus rigoureux qu'un musicien. Un musicien, c'est un mathématicien artiste. Lire et jouer de la musique se fait au poil près. Jouer ensemble se fait au quart de poil près. Quant à diriger un orchestre, comme dirait Christian Merlin, ce sont 100 musiciens qui jouent comme un seul. Alors nous sommes au millième de quart de poil près. Un chef d'orchestre, un interprète est forcément comme 2 et 2 font 4 et 2 noix font une blanche, hyper, méga, ultra, supra rigoureux. Un musicien pas rigoureux serait comme un dauphin qui ne sait pas nager, ça n'existe pas.
Bonjour, c'est Adrien. Je voudrais savoir pourquoi t'as choisi l'hymne à la joie de Beethoven pour en faire l'hymne européen. Au revoir.
Frédéric Lodéon, en tant que musicien, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, c'est une question, Adrien, formidable, parce que ça prouve que l'Europe entière a pensé que Beethoven avait trouvé une mélodie extraordinaire, capable de regrouper tout le monde, de vraiment toucher le cœur de tous les Européens et même des autres. Hein. Parce que c'est une mélodie très simple. Bon, tout le monde connaît cet air-là, et pourtant, c'est la dernière symphonie de Beethoven, c'est la 9e, dans laquelle il y a des chœurs, ce qui est une chose assez moderne, parce qu'on n'avait pas fait ça avant lui. Et Beethoven était vraiment en grande difficulté à ce moment-là. Il était complètement sourd, c'est vraiment la fin de sa période de création. Et ce qu'on peut dire, c'est le symbole, c'est-à-dire qu'il était dans le plus mauvais état qui soit, toujours malade, parce qu'il avait une mauvaise santé au départ, de grandes difficultés, son père avait été alcoolique, sa mère tuberculose, etc. etc. Mmh. Et donc il portait les traces de tout ça. Et malgré sa souffrance, c'est ça qui est très important, malgré sa difficulté à vivre, Beethoven a donné un chant d'espoir absolument extraordinaire. C'est ça qui fait que ça peut toucher tout le monde, parce que l'Europe a connu des moments atroces. On a connu au XXe siècle deux guerres épouvantables. Et c'est un merveilleux hymne qui prouve que malgré les combats, malgré les difficultés, malgré la maladie dans le cas de Beethoven, eh ben, l'être humain peut tirer de son esprit quelque chose de simple et de pur qui peut toucher le cœur de millions et de millions de personnes. C'est la simple raison. C'est-à-dire que cette mélodie est simple et elle est lumineuse et elle peut véritablement toucher aussi bien un très jeune enfant ou quelqu'un de notre âge.
C'est vrai.
Tu vois, ou un vieillard qui n'a plus d'espoir, parce que c'est l'incarnation musicale de l'espoir.
Qu'est-ce qui a donné ce titre d'hymne à la joie? C'est Beethoven lui-même ou c'est après?
Oh, c'est-à-dire que c'est d'après un texte qui porte justement ce titre d'hymne à la joie. Et puis le premier mot, c'est Freude en allemand, ça veut dire joie. Ça éclate comme ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça, c'est le texte lui-même, le poème dont s'inspire Beethoven porte ce titre-là.
Merci à Frédéric Lodéon, donc, qui fête son anniversaire avec l'apparition d'un coffret qui s'appelle Le Flamboyant, édité chez Erato. C'est un coffret de 21 disques célébrant l'intégrale de ses enregistrements. Vous écoutez Les Petits Bateaux, l'émission où des enfants posent des questions et où des savants et des savantes leur répondent.
Bonjour, je m'appelle Florine. Pourquoi ça fait un peu bizarre de dire écrivaine ou autrice? Merci, au revoir.
Bonsoir Florine, ça fait un peu bizarre de dire écrivaine ou autrice, c'est vrai. On n'est peut-être pas encore habitué. On va voir ce que vous allez lui répondre. Laëlia Véron, vous êtes écrivaine et autrice de Parler comme jamais, édité chez Le Robert. Vous êtes aussi maîtresse de conférences en stylistique et langue française à l'Université d'Orléans. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à la petite Florine?
Eh bien, vous avez un peu donné la réponse. C'est une question d'habitude. Tout simplement parce que quand on n'a pas l'habitude de certains mots, de certaines sonorités, elles vont sembler étranges. Si vous prenez l'exemple d'autrice, c'est un mot qui existe depuis longtemps, qui vient du latin auctrix, qui se forme tout à fait régulièrement, hein, comme directeur, directrice, instituteur, institutrice, acteur, actrice. Ça ne nous fait pas bizarre d'entendre, par exemple, Sarah Forestier est une actrice française, alors que les sonorités sont très très proches de celles d'autrice. Donc, ce n'est pas vraiment une question d'esthétique phonétique, mais d'habitude. Le mot autrice a été en usage, puis il est quasiment sorti de l'usage, puis il est revenu. Et voilà, quand on est confronté à un mot nouveau, très souvent on va avoir ce sentiment d'étrangeté. Et s'il s'impose dans l'usage, on s'y habitue. Je vous donne un exemple de mot qui a semblé étrange à ses débuts et que maintenant tout le monde trouve normal, le mot étudiante.
Ah bon, ça, c'était étrange au début.
Bah oui, on disait c'est moche ce mot, il y a étudiant qui existe, pourquoi est-ce que vous voulez rajouter un autre mot? Exactement comme on dit pour auteur. Et souvent on va trouver un peu des prétextes de sonorité ou d'autres choses. Par exemple, pour le mot écrivaine, un académicien disait que le mot n'était pas joli parce qu'on entendait veine. Et on lui a fait remarquer que dans écrivain on entend aussi vin. Mais c'est simplement qu'il était habitué à écrivain pas à écrivaine. Donc c'est très souvent des questions d'habitude.
Ça c'est génial. Et le coup d'étudiante, je savais pas. En fait, c'est un peu triste et en même temps, c'est une bonne nouvelle puisque ça a changé. C'est qu'il n'y avait pas d'étudiantes. Il y avait des étudiants.
En fait, c'est lié à, tout simplement à des changements sociaux. Quand il y a des changements sociaux, en l'occurrence pour les mots féminisés sur la place des femmes, ils vont très souvent s'accompagner de changements langagiers.
Alors, écrivain, écrivaine, moi j'aime beaucoup le mot veine, je sais pas, ça ressemble à Verlaine, et puis bon, j'aime cette sonorité. Mais en revanche, si on dit maître, maîtresse, alors c'est comme autrefois les professeurs des écoles, on les appelait maître et maîtresse, ça marche, mais maîtresse, ça peut être aussi une femme en double fil, donc c'est un peu péjoratif.
Oui, mais très souvent, les mots féminisés avaient ou ont cette connotation sexuelle, pour le dire clairement, comme maîtresse, la maîtresse d'un homme marié, voilà. Ou comme entraîneuse. Et par rapport à ça, on a deux réactions, soit on choisit de ne pas adopter ces mots parce qu'on a peur d'être un peu sali par cette connotation, soit on choisit au contraire de les adopter pour les faire entrer dans l'usage avec d'autres dénotations et connotations en espérant ringardiser un petit peu cette connotation sexuelle. C'est encore un choix.
Ça, c'est intéressant en fait.
Mais oui, c'est tout à fait intéressant. Oui.
Ça marche. Non, mais c'est vrai, c'est l'usage qu'on fait d'un mot qui peut finalement en changer la définition.
Mais tout à fait, les connotations vont évoluer aussi avec l'usage. Les dénotations, donc la définition stable, et les connotations, ces sortes de projections qui vont accompagner la dénotation, par exemple. Et voilà, encore une fois, étudiante, je vais reprendre mon exemple d'étudiante. Le mot, au départ, c'était un peu la poule, voire la pute de l'étudiant. Donc il y avait aussi cette connotation-là, elle a été ringardisée.
Les années défilent, moi je comprends les choses, moi je trouve les réponses aux questions qui se posent. Le temps m'a alourdi, et puis fanent les roses, des pensées qu'on croit sûres, et d'autres s'y opposent. Alors je viens poser sur la tienne ma bouche, c'est la seule vérité, nos lèvres qui se touchent. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre, les fleurs se fanent sur le rivage, mais pour mes mains dissoudre d'alcool et de paysages, je distille le jour, j'alambique les nuages, dévêtus par la foudre. Surtout ne pas mourir sans la fièvre du jour, les couchers sur la mer à ravir la mort. Nous moquer bien des limbes et des longs puits sans fond, car les dieux et l'Olympe n'auront jamais raison. Ils nous envient l'effroi de connaître le temps, de n'avoir qu'une seule foi pour nous rendre vivants. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre, les fleurs se fanent sur le rivage, mes paumes me dissoudre d'alcool et de paysages, je distille le jour, j'alambique les nuages, dévêtus par la foudre. fleurs se fanent sur le rivage, mais pour mieux me dissoudre d'alcool et de paysages, je distille le jour, je l'embique les nuages, dévêtus par la foudre. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre. Les fleurs se fanent sur le rivage, mais pour mieux me dissoudre d'alcool et de paysages, je distille le jour, j'alambique les nuages, dévêtus par la foudre.
D'alcool et de paysage, c'était Tim Dup, joli nom qui claque comme une marque. Et pourtant, ce sont juste les premières voyelles de son nom, Timothée Dupéret.
Les petits bateaux sur France Inter.
Luc Bramy est directeur général de Global Hygiène qui fabrique des papiers à usage unique, comme des essuie-mains par exemple, à base de watts.
Bonjour, je m'appelle Sophia, j'ai 5 ans, je voudrais savoir comment on fabrique des sopalins.
Bonjour Sophia. Donc en fait, le sopalin, c'est ce qu'on appelle nous de l'essuie-main ou de la serviette de cuisine. C'est un produit en fait qu'on fabrique à base de pâte à papier et qui provient en fait des arbres. Et pour le faire, en fait, on prend de la pâte à papier, on la mixe avec de l'eau comme une préparation de chocolat. Et puis en fait, on projette ça sur une feuille qui tourne à 2000 mètres par minute.
Alors, quelle est la différence, Luc Bramy, entre la feuille de papier essuie-main et la feuille de papier à lettres ?
Alors, la différence, c'est en fait une question de recette et de façon de sécher la feuille. La recette, c'est qu'en fait, si vous avez du papier pour écrire, vous avez remarqué que ça n'a pas la même réaction face à un stylo, par exemple, à encre. Ça se diffuse pas dans le cas de la feuille. C'est parce qu'en fait, on a mis dedans un certain nombre d'éléments qui ne sont pas du papier, qui sont par exemple des minéraux, comme le kaolin.
Ah.
Et en fait, ça représente à peu près 20% de ce qu'on rajoute à la pâte à papier. Et en fait, dans le cas du papier toilette ou de l'essuie-main, tel qu'on en parle là, ben en fait, vous ne rajoutez rien. C'est vraiment que de la pâte à papier.
D'accord. C'est j'allais dire pur.
C'est totalement pur. Vous n'avez que du papier.
Vous, votre but, c'est d'absorber.
Exactement. D'absorber, d'essuyer. Et en fait, la pâte à papier mise sous cette forme-là absorbe à peu près 3 fois son poids.
3 fois son poids ?
Oui.
Et alors, est-ce que vous savez combien pèse, j'allais dire, une feuille à 4 de papier essuie-main ? C'est-à-dire, enfin, je dis une feuille à 4, je ne sais pas si c'est une feuille à 4, un tronçon.
Oui, oui, je vois. Bah, en fait, c'est juste un calcul. C'est-à-dire que normalement, l'essuie-main, c'est à peu près 20 grammes en deux plis, donc 40 grammes. Donc, c'est en fait la moitié de ce que pèse une feuille de papier bureau.
Merci Luc Bramy. De mon temps, nous avions des torchons encore un peu maintenant. On disait le torchon brûle quand il y avait un petit peu de dispute dans un couple. Bon, je ne sais pas si on peut dire ça maintenant pour le papier, ce serait dangereux. Anthony Rollet était historien, il était éditeur et il a été maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris.
Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 10 ans. Je voudrais savoir pourquoi les Chinois mangent-ils avec des baguettes au lieu des fourchettes. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 11 ans et je voudrais savoir pourquoi les Chinois mangent-ils avec des baguettes. Merci de me répondre, au revoir.
Anthony Rollet, vous êtes historien, vous êtes écrivain. Cette histoire, ça fait partie de la nourriture ?
Oui, tout à fait. Alors, d'abord, pour répondre à Vincent, les Chinois ont des couteaux comme nous. Le couteau, il y en a dans toutes les cuisines. En revanche, il y a l'histoire des baguettes. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans l'alimentation la plus ancienne, ce qui a toujours servi à l'individu, c'est la main. La main, et puis en même temps, la dent. À partir de ce moment-là, lorsque vous avez bien retenu ça, au fond, le premier objectif de l'individu, c'est de couper, et puis après, c'est de pouvoir transvaser ce qui est cuit jusqu'à sa bouche. Il va donc très souvent le broyer, le mortier d'un des plus anciens instruments de cuisine qui existent. Mais une fois que vous avez broyé, vous pouvez avoir broyé tout ce que vous voulez, il faut encore le transvaser jusqu'à votre bouche. Donc vous allez pouvoir faire des soupes, vous allez pouvoir faire des salades, vous allez pouvoir faire les soupes, vous les prenez avec une cuillère. mais tout ce qui est, par exemple, les céréales dures qui existent depuis le plus longtemps, depuis quelquefois 15, 17, 19 000 années. Eh bien, ce sont des céréales, vous les prenez avec les doigts, soit c'est trop collant, soit c'est trop gros, soit trop gluant, soit ça file entre les doigts, bref, c'est pas pratique. Et puis surtout, avec la main, avec la saleté de la main, vous perdez une partie du goût. Voilà où je veux en venir, c'est que la baguette, c'est d'abord quelque chose qui est le résultat du, il faut bien le dire, du talent de l'individu qui veut respecter le goût, car la baguette, c'est, si vous voulez, une sorte d'ascenseur manuel. Ça monte la nourriture du plat jusqu'aux lèvres, ça ne touche jamais les lèvres. C'est pour ça qu'il y a des baguettes. Et c'est la grande différence entre la baguette et la cuillère. La cuillère, vous sentez l'ustensile, la baguette, vous ne la sentez pas.
Donc elle ne dénature pas.
Elle ne dénature pas le goût. Et donc ici, l'objet, c'est effectivement, après, de pouvoir adapter cet élévateur pour nourriture aux différentes spécialités que vous faites et aux différents types de cuisine. Par exemple, je suis sûr que nos auditeurs qui ont posé des questions n'ont pas observé, mais suivant le type de baguette, si ce sont des baguettes japonaises, elles sont pointues. Si ce sont des baguettes thaïlandaises, le bout est rond. Si ce sont des baguettes chinoises, le bout est biseauté. Tout simplement parce qu'il faut que votre ascenseur soit adapté à la nourriture. Ces baguettes-là, elles ont 15, 18, 20 000 années, je l'ai dit. Donc il fallait s'adapter à des céréales des marais extrêmement petites, extrêmement dures, donc qu'on avait broyées, qu'on avait fait cuire à l'eau, qu'on avait braisées, qu'on avait mis dans une sauce, et donc celles qu'on ne mangeait pas à la cuillère, il fallait bien, en fonction de la longueur, il y a 14 variétés différentes de riz, par exemple, dès cette époque-là. Donc il faut la bonne baguette, tout simplement.
Donc en fait, la baguette, quand je vous entends, Anthony Rollet, c'est un instrument très subtil, très raffiné. Ce n'est pas du tout quelque chose de complètement simple, fait par des andouilles qui n'ont pas découvert la fourchette.
Non, c'est un choix alimentaire.
Merci pour ces précisions. Alors, nous avons justement diffusé cette question qui est ancienne parce que mardi prochain, nous fêterons le nouvel an chinois. Nous rentrerons dans l'année du tigre d'eau. Alors, pour savoir si vous êtes tigre, êtes-vous né en 1986, 98 ou 2010? Dans ce cas, vous êtes peut-être tigre. C'était les Rolling Stones en 1966. Si vous êtes né en 1966, alors en astrologie chinoise, vous êtes cheval. Vous écoutez Les Petits Bateaux sur France Inter. Le numéro de téléphone qu'il faut faire pour poser une question, c'est le 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Billy Sheima, j'ai 8 ans. Je voudrais savoir si le soleil tourne autour de quelque chose ou s'il ne bouge pas. Merci.
Bonsoir, je n'ai pas très bien saisi ton prénom, mais peu importe. Ta question, je crois qu'on se la pose tous et qu'on n'ose pas trop le demander de peur d'avoir l'air ignorant. Yaël Nazir, vous êtes astrophysicienne, vous travaillez à l'Université de Liège et vous êtes chercheuse au FNRS en Belgique, le Fonds de la Recherche Scientifique. Le soleil tourne-t-il autour de quelque chose ou reste-t-il immobile? J'ai honte de ne pas avoir la réponse.
Alors, vous voulez que je vous donne la réponse tout de suite ou vous voulez que je vous raconte une histoire?
Une histoire.
Alors, il faut savoir que, il y a plusieurs siècles, on pensait que la Terre était au centre de l'univers et que tout tournait autour de la Terre. Et puis, on a eu ce qu'on a appelé la révolution copernicienne, où, on a changé un peu les rôles et c'est le Soleil qu'on a mis au centre et les planètes, dont la Terre, qui tournaient autour du Soleil. Mais après? Après, on se retrouvait avec le Soleil au centre. Le Soleil qui était au centre de notre galaxie, et puis rien. Jusqu'à il y a un siècle. Il y a un siècle, il y a eu comme ça pas mal de recherches qui avançaient sur notre galaxie, mais également sur peut-être d'autres galaxies. On savait pas très bien ce qui était en train de se passer. Il y avait des bouillonnements, je vais dire, intellectuels dans tous les astronomes. Et il y a un siècle, on s'est rendu compte d'une chose très importante, c'est que finalement, le Soleil n'était pas au centre de l'univers. C'est la deuxième révolution copernicienne dont personne ne parle. On s'est rendu compte, à ce moment-là, en fait, que le Soleil se trouvait en banlieue de sa galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et donc, il fait un tour autour du centre de notre galaxie en 225 millions d'années.
Waouh !
Ah ben oui, l'année galactique, c'est long. Mais c'est grand aussi, C'est normal. Au cœur de cette galaxie, le machin autour duquel le Soleil tourne, c'est un énorme trou noir, un trou noir supermassif, dont la masse, c'est 4 millions de fois la masse du Soleil. Et évidemment, cette galaxie, elle n'est pas immobile non plus. Elle bouge. Elle bouge parce qu'il y a d'autres galaxies, et donc toutes les galaxies bougent les unes par rapport aux autres, et notamment la nôtre, elle est en train de se diriger vers ce qu'on appelle la galaxie d'Andromède. Les deux galaxies vont d'ailleurs entrer en collision dans quelques milliards d'années.
Mais pourquoi ne le savons-nous pas?
Il y a eu beaucoup plus de bruit pour la première révolution copernicienne que pour la seconde. Ce qui s'est passé il y a 100 ans, c'est qu'il y a eu un débat. Un faux débat en réalité, parce que un des astronomes qui avait un peu peur de débattre, ces deux astronomes avaient des conceptions très différentes de l'univers.
C'était qui et qui?
Alors il y en avait un, c'était Arlo Chapelet. Arlo Chapelet, lui, il avait observé beaucoup d'amas globulaires, ce sont des groupes d'étoiles qui se trouvent autour de notre galaxie, et lui il était persuadé que la galaxie était beaucoup plus grande que ce qu'on pensait, 10 fois plus grande que ce qu'on pensait à l'époque, et que le Soleil était en banlieue.
Déjà une
et
belle
il
intuition.
Avait raison. Oui, mais il avait raison. Et puis à côté, vous aviez Hébert Curtis, qui lui connaissait beaucoup mieux ce qu'on appelait à l'époque les nébuleuses extragalactiques. Donc des objets qui se trouvaient, qui avaient des formes de spirales, et on ne savait pas très bien ce que c'était. Est-ce que ça appartenait à la galaxie? Est-ce que ça appartenait pas? Hébert Curtis, il était persuadé que ces objets là, c'était d'autres galaxies. Mais ils pensaient que la galaxie, c'était un objet assez petit, avec le Soleil au centre. C'était donc en 1920, en avril 1920, qu'a eu lieu le débat entre ces deux hommes. Et dans les années qui ont suivi, on s'est rendu compte que finalement, ils avaient tous les deux raison. Arlo Chapelet avait raison, notre galaxie est grande et on est bien en banlieue. Mais d'un autre côté, il existe bien d'autres galaxies. Et puis, évidemment, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ce mouvement d'expansion de l'univers, qu'il y avait plein de choses dans l'univers. Donc, ça a été vraiment le début d'une décennie prodigieuse.
Qu'elle est sympathique, cette Yaël Nazé, astrophysicienne. Son dernier livre sortira dans une dizaine de jours, le 10 février exactement. Il s'appelle « Femmes astronomes ». C'est une présentation des grandes figures féminines de l'astronomie. Il est édité dans la collection Biblis chez CNRS Éditions. Marjorie de Voucoux, la réalisatrice des Petits Bateaux ce soir, a flashé pour ce livre de Florence de Boves, Bergère, édité chez Transboréal. Et je dois dire que j'ai partagé son enthousiasme. C'est un récit. Une jeune femme nous parle de son métier de bergère, tout simplement. Sauf que ce métier, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, n'est pas simple. Elle part seule, enfin seule humaine, de juin à octobre dans la montagne, avec un troupeau de brebis, deux chiennes patou, plus sa chienne à elle. Au départ, un hélicoptère livre là-haut beaucoup de choses, matériel, nourriture. Ensuite, elle se débrouillera. Sa cabane n'est pas vraiment une rustique et jolie construction de rondins embaumant le feu de bois. C'est un abri de ciment, suintant l'humidité, inchauffable, sans réserve de bois sec, mais avec une jolie réserve de champignons en tout genre. Rassurez-vous, ça s'améliore au fil des pages. Quant au métier lui-même, il est passionnant. Emmener les brebis sur les bons herbages, au bon moment, les guider, les soigner, les protéger, les connaître, se soigner soi-même, marcher sous la pluie, marcher la nuit, marcher au bord du vide, prendre les bonnes décisions en un quart de seconde, apprendre de ses erreurs, apprendre de ses réussites, apprendre des autres, apprendre. Devant l'éleveur qui l'embauche, elle évite de dire des mots doux à sa chienne parce que, je la cite, « je suppose qu'ils veulent une bergère résistante ». Et dans l'imaginaire collectif, il faut être rude pour être solide. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Effectivement, on voit tout au long du récit qu'elle est extrêmement courageuse et tendre. « Bergère » de Florence de Boves est édité chez Transboréal. Podcastez mes amis, podcastez ces petits bateaux ou réécoutez-les tout simplement par franceinter.fr ou l'appli Radio France. Benjamin Troncin, Jean-Baptiste Audibert, Stéphane Co, Marjorie de Voucoux, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30 pour un nouveau numéro des petits bateaux.